tu vu le lockout. On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town. C'est vendredi, on prend un coup, ça parle de boxe dans le coin. Qu'il soit bleu ou rouge, c'est pour la boxe technique. Ou bien les gars de Goom, si tu gardes pas tes mains, oh, tu risques de perdre le zoom. Ça parle des Gaumont, jusqu'à Lucas Klitschko, jusqu'à Charlot, des Clavel, jusqu'à Canelo. Get on art, le steak de Buckingham. La légende, le buzz qui m'écoute. As-tu vu le knockout? As-tu vu le knockout? On est rendu au compte de 10, y'a pas de bois encore. Passe le mic que j'annonce le main event. Écoute le live juste avant la fin de semaine. C'est le Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée, Boxing Town. Knockout Friday, Knockout Friday. Une autre soirée avec Boxing Town.
En direct d'un appartement solidement humide de Rosemont, Montréal. Je sais pas ce qui se passe avec mon air climatisé. Plus que je la mets forte, plus j'ai chaud dans la maison. Il doit y avoir un problème technique. Je suis trempe à la vette. Podcast numéro 138. En introduction, je vous l'ai déjà répété, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de vous faire un sermon, comme à l'église le dimanche, je vais vous en faire un. Si j'ai envie de parler de ce qui m'a touché dans les dernières heures, je vais le faire. Nadège Saint-Philippe est morte. Elle a succombé de son cancer. C'était la sympathique présentatrice météo d'origine africaine. C'était une très belle fille qu'on écoutait nous annoncer la météo à Salut Bonjour. Et elle, elle avait le cancer. Elle a été dans la salle de nouvelles pendant plus de 15 ans à TVA. Elle a commencé en 2006, elle a un premier diagnostic de stade 3. Et là, ben, elle est décédée. Puis, dans ma vie, j'ai eu à travailler avec une fois, je vais te conter l'anecdote, je change de secteur au travail, puis il y a une fille qui est là. Elle doit avoir à l'époque un 42-43 ans. Elle est taillée au couteau. Elle est toujours de bonne humeur. Elle court des marathons. Et là, j'étais fasciné. Je dis, comment la plus belle fille d'un secteur peut être aussi la plus gentille? Puis elle était toujours positive. Puis là, j'étais fasciné. Puis je la chalais toujours avec ça. Je dis, regarde bien, là. Le travail qu'on fait ici, là, il est répétitif et drabe. Je peux comprendre que tu es positive, mais là, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble. J'ai pas vu le moindre signe de désagrément. Tu es tout le temps de bonne humeur. Tu aides tout le monde. Et là, elle m'avait expliqué, à force que je l'achale, qu'elle avait eu un cancer et que le docteur lui avait dit 13 quelques mois à vivre. Puis finalement, un miracle, elle s'était... Étrangement, il y a un proverbe qui dit « À 15 minutes de la mort, on est tous religieux. » Quand elle avait appris que s'il restait quelques mois à vivre, le soir, elle s'est couchée. Puis elle a juste dit la chose suivante dans sa prière. « Si, elle dit au bon Dieu, si tu me sors de ça, je vais être positive le reste de mes jours. » Étrangement, il est arrivé un miracle. Et là, elle est toujours positive, puis elle fait juste du bien autour d'elle. Puis ça, ça me fascine beaucoup. Puis récemment, j'ai rencontré une autre fille, magnifique. Elle est magnifique. Et elle aussi a eu un terrible cancer et elle s'en est sortie. Et je te dis, là, elle, mettons une journée, là, je file pas, j'ai envie de tout casser. Elle a tout le temps les bons mots, comme, tu sais, chaque jour nous est donné, tu sais, profites-en pour faire le bien, profites-en pour être heureux, fais des petites choses, tu sais. Elle a toujours un peu le... On dirait que de voir la mort fait apprécier chaque jour après, alors qu'on est dans cette vie où on est tous un peu pressés, on capote, on stresse. peut-être qu'il faudrait tous qu'on voie la mort pour ensuite mieux vivre. C'était ton introduction trop cute. Après, le Canadien a échangé Jeff Petrie. Faut que je vous raconte l'anecdote, OK? C'est une anecdote de ma vie personnelle. C'est que moi, j'adore acheter des cartes d'hockey. Je vais dans des conventions, puis je vais dans eBay. Sauf que mon buzz, c'est de multiplier les cartes du même joueur, mais à une pièce. Et là, il me dit, la journée qui va être bon, je vais les revendre 4 pièces, puis je vais faire l'argent comme de l'eau. Fait que j'avais acheté, tenez-vous bien, de entre 1 et 40 $ peut-être, mais en ayant beaucoup, beaucoup à une pièce, puis très peu à 40 $ pour 1500 pièces de cartes de Ryan Pauling, quand il était une recrue. Et là, il a été échangé avec Jeff Petrie à Pittsburgh pour Michael Matheson. Fait, je ne sais pas trop qu'est-ce qui va arriver avec la valeur de mes cartes. J'ai fait la même chose, mais j'ai pas les moyens de m'acheter des Nick Suzuki ou des Cole Caulfield. Fait que moi, j'ai une tonne de cartes de Kaden Primo, Kaden Goulet, Jake Evans. J'avais beaucoup de Ryan Pauling. Là, je suis en train d'accumuler les Justin Barron. Fait que c'est ça mon buzz, moi. C'est d'acheter les joueurs poches, puis là, s'il y en a un qui explose, je suis millionnaire. Comme à la bourse, on achète bas et on essaie de revendre haut. Sinon, des nouvelles en provenance de mon bon ami Jonathan Giria. Celui que je vous parle souvent, qui achète pour 1500$ de pay-per-view par mois. Les fils se touchent. Lui, il travaille pour acheter des pay-per-view. Donc, hier, il avait payé Ryan Garcia contre Javier Fortuna. Il va me dire, t'as pas bien prononcé. Je sais pas, moi, je suis un Québécois. J'écoute juste la télé en français. Je suis pas capable de bien prononcer les noms. Fait que c'est pour ça que je les scrape toutes. Puis ça fait partie de mon charme. Donc, il a acheté un projecteur, un écran. Je veux dire, c'est la grande classe. J'ai déjà hâte d'aller m'installer en pantalon long pour écouter SummerSlam. Parce que en tant que roux, il y a une affaire que j'ai compris. Passer 20 heures, il va falloir que je mette des pantalons parce que les maringouins trippent un peu trop. Podcast numéro 138, vous allez voir, j'ai ressorti Laurent, le raconteur, pour l'événement. On va parler de boxe québécoise. C'est arrivé une coupe de patente. Il y a plein d'affaires que j'ai pas le droit de vous dire. Donc, c'est quand même dur à aiguiller. Mais on va y aller. On va avancer dans ce magnifique podcast.
Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Apprenez à vivre.
Il y a une affaire là, qui me fait capoter, je vais vous dire en commençant, c'est que dans le monde de la boxe, c'est pas comme dans le monde du hockey professionnel. Le hockey, là, t'affecte 25 journalistes au Canadien de Montréal, ils vont finir par trouver quelque chose, tu sais, puis ils vont en faire là, des reportages. À la boxe, présentement, il n'y a absolument personne d'affecté. Fait que là, moi je travaille, là je vais vous le dire, je m'entraîne pour perdre 100 livres, OK, avec mon bon ami Siamak Ramati. J'ai déjà perdu 15 livres, OK, je lève des poids chaque jour. Je pars travailler le matin, il est 10 heures, je reviens le soir, il est minuit, OK. Mon entraînement est fait, ma journée de travail est faite, mes repas sont mangés, je me couche, OK. Est-ce que je peux en plus sauver la boxe au Québec? Il faut que je me sauve moi-même, désolé. J'ai trop pris de poids, puis je vais faire une crise cardiaque avant mes 41 ans si je fais rien. Je vais avoir du diabète. Les 6 prochains mois, je sauve ma vie, OK? Je vais suivre la boxe dans la mesure du possible. Je vais la commenter au travers de ce podcast. Je vais essayer de faire des statuts, mais je ne peux pas faire plus. Je ne vais pas faire d'articles, je vais faire moins de vidéos. Je sacrifie 6 mois de ma vie pour ma santé, pour moi-même. Martine Vallière-Bisson dirait que je me suis choisi. Mais là, on a un problème, OK? Mathieu Boulay, que j'aime d'un amour profond, il tripe tennis puis football canadien. Il s'occupe plus de la boxe. Là, cette semaine, j'ai essayé d'y écrire, puis j'ai dit, hey, j'ai des dossiers, j'ai des affaires que tu pourrais suivre. Écoute, je vois bien que ça ne l'intéresse pas. Donner l'exemple. Mathieu Boderlic, l'Olympien, il est à Montréal pour s'entraîner avec Stéphane Larouche. Dans ma tête, tu peux faire une belle page en Journal de Montréal. Là. Un Olympien qui est ici avec Larouche, qui s'entraîne pour devenir aspirant obligatoire à Arthur Beterbiev. Larouche d'un bord, Ramsey de l'autre, Callum Smith, il se bat contre Callum Smith en sous-carte de Joshua. Comment tu te sens d'être en sous-carte de Joshua? Il y a une affaire incroyable à faire. Il faut croire que si je vais pas le faire, personne ne va le faire. Mais là, j'aimerais ça que les journalistes s'occupent des bonnes histoires de la boxe, mais ils ne le font pas. Donc, je suis bien découragé. Notre sport s'en va aux oubliettes. Cette semaine, il était supposé avoir une pesée 30 jours pour le combat de championnat d'Oscar Rivas à la WBC. Et j'ai aucune idée s'il y a eu une pesée. Personne s'en est occupé. Il n'y a personne qui s'occupe de boxe professionnelle. Jean-François Théotonio qui s'occupe de boxe professionnelle à la presse. Titre, grande victoire des Impacts au Stade Saputo. Il s'occupe pas de la boxe. On lui a pas demandé. Francis Paquin, que j'aime d'un amour profond, est rendu président de son syndicat. Il fait des griefs maintenant. Il n'y a personne qui a pris la relève en boxe. Régent Tremblay, il a 78 ans. Il travaille 26 semaines par année. Les 26 autres, il est à la plage. C'est ça son contrat. Et là, il se morfond. Il ne peut pas parler de boxe nulle part. Il attend le retour de Jean-Charles Lajoie au 91-9. Donc, ils avaient deux choix. Là. Dans ma tête, j'avais pensé faire du lobbying pour avoir mon émission 91.9 pour essayer de parler de boxe à plus de monde. Ou vous partagez mon podcast, vous l'envoyez à vos amis, puis vous arrangez pour que mon podcast devienne plus gros que celui de Mike White pour sauver le monde de la boxe. C'est un peu ce que je vous propose. Faites ce que vous voulez avec ça. Mais on a un problème, là. Le sport qui est la boxe est à son plus bas. Nancy Audet, qui tripait, qui était partout, a décidé qu'elle écrivait des livres. Que grand bien lui fasse, mais là, ils l'ont pas remplacé non plus. Fait que c'est ça que je voulais vous dire un peu. J'ai jamais été aussi triste de l'absence de couverture boxe dans les médias francophones. Je suis littéralement atterré et triste, mesdames et messieurs. Hier soir, parlons boxe quand même, si je vais faire ma job, Ryan Garcia a stoppé Javier Fortuna à Los Angeles, en direct du Crypto.com Stadium, présenté par DAZN et Oscar de la Hoya. King Ryan a arrêté l'ancien champion de la WBA, Javier Fortuna. Fortuna, n'ayons pas peur des mots, n'avait pas l'air dans la plus grande forme de sa vie, là. Mais ça, c'est pas le problème de Garcia. Mais là, Garcia, là, il faut que je vous le dise, OK? Moi, il m'impressionne parce que c'est celui qui a le mieux jumelé à date le savoir créer un buzz sur les médias sociaux. Mais c'est vraiment un très bon boxeur. Un gars qui était sur l'équipe nationale. Un gars qui a battu à peu près tout le monde. Et c'est une superstar sur les médias sociaux. C'est déjà une superstar en boxe. Et là, il nous a montré qu'il était capable de lancer son jab, d'être très efficace. Le seul bémol, c'est qu'il se faisait taguer, comme vous dites dans le monde de la boxe, par la grosse main gauche, la grosse droite en contre-attaque de Javier Fortuna. Il va falloir qu'il prenne un peu moins de coups. Au quatrième round, c'est une gauche au corps. Garcia va dropper Fortuna. Garcia, il faut que je donne. Avant, je ne trippais pas. Là, je voulais pas. J'aime pas embarquer dans le buzz. J'aime pas qu'on choisisse quelqu'un et qu'on en fasse une superstar. Mais Garcia, soyons honnêtes, il a tous les outils et il s'inscrit vraiment dans le quatuor avec Devin Haney, Gervonta Davis et Teofimo Lopez qui vont driver tout ce qui est autour de 130-140 pour les années à venir. Et là, c'est ce qu'on a entendu. Garcia veut affronter Davis, mais ne veut pas aller le rejoindre dans sa catégorie de poids. Tank Davis, lui, dit « Ben, t'as peur, sinon tu serais dans ma catégorie. » En espérant, tu sais, si Crawford puis Spence, c'est vraiment grandiose, si on peut avoir Davis-Garcia, je vous dirais que c'est quasiment juste une petite coche de moins, mais ce serait du grandiose aussi, et ça pourrait amener une certaine relance de la boxe à l'international. Lamon Roach Jr. a facilement vaincu. On peut dire ça, je pense. Angel Rodriguez sur 12 rondes. Sinon, 2 fois 116, 112 et 1, 117, 111. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bonne soirée. C'était une bonne soirée de boxe. J'ai vu Alexis Rocha, solide boxeur gaucher. Alexis Rocha à surveiller. Ça va être la grosse patente. Il y a assurément un gros combat qui s'en vient pour lui. Mais c'est rare d'habitude, j'écoute les cartes de bord en bord, mais là, je vais vous dire ce qui est arrivé. Je travaille de soir maintenant, puis là, c'est vendredi, je me suis couché comme à 4h du matin, puis je me suis levé comme à 9. Puis là, hier, j'ai dormi toute l'après-midi. Je suis complètement dérouté par mon nouvel horaire. J'adore, là. C'est comme si on m'avait pris, puis on m'avait obligé à me coucher à 9h pendant des années. Puis là, du jour au lendemain, j'ai plus d'heures pour me coucher. Et je me couche 2h45, 3h25. J'ai jamais trippé de même de ma vie à me coucher aussi tard. Je me promène au centre-ville. Je vous le dis, là, de ce temps-ci, je suis bien de bonne humeur. Sinon, j'ai écouté, il y avait d'autres combats de on va faire le tour des résultats parce que j'ai une couple de bonnes histoires pour vous autres sur les combats de la fin de semaine. Premièrement, j'arrive pas à trouver les résultats de la carte qu'il y a eu, des cartes qu'il y a eu hier au Canada. T'sais, il y a eu une carte en Colombie-Britannique, je trouve rien. Il y a eu une carte en Nouvelle-Écosse qui était sur papier vraiment pas terrible. Ben, je trouve rien non plus. Donc, je sais pas quoi vous dire, là. BoxRec, il capote maintenant. Je pense que BoxRec, il demande plus de vérification maintenant avant de donner les résultats. BoxRec est pris dans un genre de scandale où ils sont de plus en plus méticuleux, ce qui fait qu'il y a des boxeurs qui commencent à dire que leur fiche est incomplète sur BoxRec. Le meilleur exemple, Mohamed Soumaoro, on ne reconnaît pas sa dernière victoire qui était sur 10 rondes au Mexique. Donc le pauvre Mo s'est comme battu pour rien au Mexique. Dans le premier combat que j'ai écouté hier après-midi, il faut que je vous raconte ça, c'était au Stade Olympique de Copper Box Arena au Reine-Élisabeth Stade Olympique à Londres. Lennox Clark, okay, qui est un ancien aspirant mondial qui avait perdu contre Leron Richard. Puis il avait surpris Wilkie Hutchinson, qui est un gros prospect à un autre niveau. Lui, il affrontait Mark Efron. Puis Efron était négligé à 3 contre 1 kid Dynamite. Efron a mal mené Lennox Clark. C'était du pas propre. Il bardassait, il frappait à deux mains. En tout cas, il y avait vraiment le numéro de Clark à un point tel que je me demande même si ce Mark Efron-là, on ne devrait pas le voir au Québec, tu sais, contre Mbili ou contre Bazinian. Il est vraiment devenu très crédible en sacrant de voler à Lennox Clark. Puis il y a quelque chose à faire chez les 168 livres avec Mark Efron. Sur la même carte, j'ai vu Nick Ball, 15-0, qui a gagné. Dennis McCann, 12-0. Toujours beaucoup de prospects comme ça en Angleterre. Il y a un gars qui s'appelle Sonny Liston Ali. Ses parents étaient quand même assez comiques. Ils l'ont appelé que Sonny Liston. Oh, désolé. Taparoche, j'avais un chat dans la gorge. Sonny Liston Ali. Toute une idée de la part de la parenté. Souvent, c'est des nicknames. Je ne sais pas pourquoi les nicknames atterrissent comme ça sur BoxRec. Il y avait le boxeur préféré de mon bon ami Kenny Sherry, Austin Trout, qui est allé surprendre Florin Cardos en Allemagne. Le promoteur allemand s'était payé, Austin Trout l'avait mis ses pancartes. Et là, il faisait affronter un Roumain qui était dans sa promotion. Trout est allé le battre par décision partagée. et Firat Arslan, qui en top shape, qui est un ancien cruiserweight, mais tu sais, qui est rendu à 51 ans, mais pas un once de gras à patates frites sur le corps, mais il commence à être vieux quand même. Il a gagné son 5e combat de suite depuis son retour. Il affronte un certain niveau, pas trop compliqué, là, mais pour un homme de 51 ans, je serais pas surpris qu'il nous fasse un Bernard Hopkins, mais que lui gagne une ceinture peut-être mineure au lieu de gagner une ceinture majeure. C'est un gars qui a fait des classiques avec Marco Captain Hawk. Donc, ça fait le tour des combats de la... Oh non, j'en ai oublié un. J'ai une chance, j'ai ma petite feuille ici. Arnold Barboza Jr., lui, là, faut que je vous en parle, c'est un monstre. Il a battu par Yudi Dianalito Zoria. Arnold Barboza Jr., qui a aussi battu Tony Lewis, fait peur. Et un méga prospect chez les poids lourds, il y en avait deux. Il y a Richard Torres, l'Américain, qui est participé aux Jeux Olympiques, qui a gagné en une minute. Et Stephen Shaw, qui est un méga prospect aussi américain, surnommé Big Shot chez les poids lourds, qui s'est débarrassé du journeyman Bernardo Marquez. Donc des gars, moi je vous l'annonce, un jour tu vas avoir un Stephen Shaw contre Simon Kane. Il va bien falloir qu'ils se battent un jour, Simon, et c'est le genre d'adversaire qu'on va lui donner. Tant qu'à être là, écoute, moi là, ce podcast-là, j'en ai pas de commanditaire, fait qu'on peut avancer dans le podcast cette semaine, pas plus tard que jeudi, au Rebel Entertainment Complex. Steve Rose, le Canadien, va affronter Shady Gamour. Gamour, c'est un Suédois invaincu qui habite dans le coin de la Floride, qui a jamais été testé. Et là, se ramasse en finale. C'est quand même drôle. On amène un Suédois en finale, invaincu, contre Steve Rose au Rebel Entertainment Complex à Toronto. Amanda Gill qui va affronter Jacqueline Munoz, 7-10. Nick Fantozzi, qui est 11-0, affronte un boxeur polonais de 3-3. Tu sais, qu'est-ce que tu fais 11-0 contre 3-3? Je ne sais pas. Joshua Lupia, qui est 5-0. Un gars de Niagara Falls qui sort de la retraite, veut repartir sa carrière, n'a toujours pas d'adversaire. Donc, c'est la carte qu'on nous présente au Canada. Aussi, James Hughes, qui fait ses débuts pro. Je ne le connais pas. Ni Dev, ni d'Adam, comme on dit dans les proverbes bibliques. Sinon, mais j'avais mis ça sur ma feuille. Il reste juste à la retrouver. Vous savez comment c'est le podcast le plus loufoque du Québec. La semaine prochaine, il y a Mark Smith aussi, c'est ça, on va rester au Canada, ça j'avais mis ma liste, Canada. Mark Smither va affronter Cody Kelly et Josh Wagner va affronter Fernando Silva. On a les gros prospects, eux ils sont payés des prospects, ok? Shaq Elfin a signé avec United Boxing Promotion cette semaine. C'est la même promotion qui ont Josh Wagner. Songseep Singh Bhatti qui est 11-0 va affronter un Mexicain 13-25. Beau matchmaking de Bouette. Ricardo Brown qui est un méga prospect de 6 pieds 7 pouces qui va affronter Christian Larondo, le fameux Larondo. Joshua Fraser, l'Olympien, surnommé El Razor, lui va affronter Yair Gallardo. Ils ont mis la main sur Shaq Elfin cette semaine. United Boxing Promotion est sur le point de pouvoir s'inscrire dans la même phrase que Groupe Yvon Michel et Eye of the Tiger Management. C'est la plus grosse promotion hors Québec. Ils ont réellement beaucoup de talent. Je ne sais pas c'est qui le bailleur de fonds, mais ils ont des sous, c'est clair, à investir parce qu'ils ont des très bons boxeurs. Là, la carte n'est pas fantastique, mais c'est comme ça qu'on monte des galas. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, la semaine prochaine, je continue à... Mais j'ai déjà... Tenez-vous bien, je pense que j'ai fait... On est quelle date aujourd'hui, là? On est le 17, donc j'ai pas fini ma tournée. Je savais même plus où on était. Je pensais qu'on était le 9 juillet. Un peu mêlé dans mes... Joette Gonzalez va affronter Zach Dogbo. Dogbo, un de mes favoris, frappe comme un train. Ça, c'est sur ESPN. Gabriel Florent Junior, lui, faut que je vous raconte cette histoire-là. Il était tellement populaire, il vendait des arénas tout seul dans le coin de Stockton, Californie. C'était la grosse affaire. On l'a swingé contre... On est allé un peu vite dans sa montée. On l'a mis contre Luis Alberto Lopez. Il a pas gagné un round. Il s'est fait surprendre contre un Mexicain qui était vraiment tough. Et là, on va tenter de le repartir, même s'il est jeune. Arel, Jarrell Steroil Miller va affronter Derek Cardona. Cardona, il est 8-9. Je sais pas comment on tente de réétablir Miller, mais on vraiment contre des adversaires faibles. Ça se demander s'il y a quelqu'un dans son équipe qui a pas confiance en lui ou s'il est pas peut-être pas bien entraîné. Je sais pas ce qui se passe avec Jarrell Miller. On va passer à un autre dossier, le dossier de la Colombie, OK? J'ai fait des téléphones, j'ai appelé un peu partout. Il n'y a absolument personne qui sait si le gala va avoir lieu. Il y a Vincent Morin qui travaille comme un cheval pour remplir la carte. Il a rempli la carte, il a acheté les billets d'avion, il a fait les transferts pour tout le monde, mais les gens qui sont sur la carte ne savent même pas s'ils vont se battre. Mais là, c'est sûr que le monde, ils font leur effort, ils s'arrangent pour être prêts, mais ils sont tous un peu mêlés. Mais il n'y a pas eu de pesée non plus des 30 jours. Sur BoxRec, on n'annonce pas ce combat-là comme étant un combat de championnat. Il y a bien des affaires qui sont bizarres. Mais Vincent Morin, le matchmaker, a réussi quand même à booker une soirée avec 3 combats de championnat du monde. En partant, c'est drôle parce qu'il va avoir... Luis Figo, Ronaldinho, Chris Brown, Jennifer Lopez, des chanteurs, Floyd Mayweather va être là. Il y a vraiment beaucoup trop de monde annoncé sur le poster. Là. J'ai bien hâte de voir si tout ce beau monde-là va être là parce qu'on dirait qu'il y a toutes les plus grandes vedettes latines de l'histoire qui vont être là. Mais parlons boxe. Cristian Salcedo, qui serait le nouveau prospect du groupe gym, un Olympien de 6 pieds 6 pouces, va affronter Raul Antonio Villarruel 4-2. Morin a trouvé beaucoup d'Argentins pour cette carte-là. Alexis Barrière, qui est 7-0, ça c'est intéressant. Barrière ferait son deuxième combat prévu pour 8 rounds. Il va affronter Maximilio Alejandro Sosa, mais c'est un gars qui était sur l'équipe, c'est un gars qui a participé au World Series of Boxing, qui a représenté l'équipe américaine contre Cuba, qui a déjà affronté Julio César de la Cruz. Même si on est hors Québec, c'est clairement le plus grand test en carrière de Alexis Barrière, et c'est intéressant comment on monte les choses avec lui. Est-ce que Patrice Volny est signé avec Groupe Gym? Je ne le sais pas, mais il affronterait John Teheran, un boxeur colombien de 18 victoires, une seule défaite. Un boxeur qui n'a pas grand-chose sur sa fiche, n'ayons pas peur des mots, ses 3 dernières victoires, 1-14-06-04. J'ai l'impression que Volny le gèlerait assez rapidement, mais Volny, qui n'a pas boxé depuis Falcao en fin 21, a besoin de se battre. Donc, c'est parfait. Et le gars a une fiche potable. Donc, profitons-en. Volny ne trimera pas très dur contre John Teheran. Anna Gabriel, la championne du monde chez les 168 livres et plus, ce qu'on appelle les poids lourds chez les femmes, va affronter Angie Paola Roca. Écoute, une fille qui n'a pas subi la défaite depuis 2006, qui sort de la retraite, une retraite de 7 ans. Écoute, c'est souvent comme ça en boxe. Ils sont 9 dans leur catégorie de poids chez les poids lourds. Donc, c'est une Colombienne, une fille du coin, surnommée la Guapachosa. Donc, écoute, c'est bien correct. Il faut que le monde se batte. Puis, ils sont prêts. Et Lander Alvarez, lui, quand il est devenu champion du monde, il y a un dénommé Alex Terran qui était sur l'équipe nationale avec lui, qui nous vient de Barranquilla, en Colombie. Et lui, là, c'est un gars qui est au Massachusetts, que Vincent Morin a côtoyé, OK? Mais Alex Terran, là, quand Hélander est devenu champion du monde, il s'est mis à l'attaquer sur les médias sociaux en disant « J'étais ton pire cauchemar chez les amateurs. Je t'ai brassé. » Et je suis crédible. T'sais, j'ai des défaites contre Toureano Johnson, Arif Magomedov, Ralojic Kalajvic, Alfonso Lopez, Yuzneski Gonzalez, Anthony Yardé, mais j'ai toujours affronté les meilleurs. Donc, Hélander, tu me dois un combat de championnat du monde pour ce que je t'ai fait vivre dans l'équipe nationale. Hélander n'a jamais voulu lui donner. Mais là, on s'en va en Colombie. Hélander a besoin de... je vous apprendrai rien, a besoin d'extra motivation pour être prêt à monter dans le ring. Donc, Morin, qui connaît Téhéran par le Massachusetts, qui est colombien en plus, a dit « Regarde bien, ça ne tente pas de tester mon homme? » Il a dit « Enfin, j'en rêve de ce combat-là. » Hélander a dit oui. Donc, Alex Téhéran contre Hélander Alvarez. Dieudonné Wilfred Tsehi Nzengue va affronter José Miguel Torres, ce premier combat de 10 rondes. Torres, un autre gars du coin, 43 ans. Il commence à être vieux, le Colombien. Je ne me pitcherai pas à terre, là. On l'a vu, il a fait 10 rondes avec David Lemieux en 2013. On l'a vu contre Martin Murray, Marco Antonio Periban, Lenin Castillo. On l'a vu contre à peu près tout le monde. Il n'y a pas de victoire à ses 3 derniers combats. C'est correct, là. Passer à une victoire à ses 6 derniers combats. Passage obligé. On est hors Québec. Amuse-toi, Wilfred. Gonfle ta fiche. Cecilia Bracus contre Patricia Bergul. Ça, c'est la grande classe. Combat de championnat WBC. Très intéressant. La gagnante a 30 jours pour affronter Marie-Ève Dicker dans le contrat. Pour 2 ceintures de championnat en même temps. Et Oscar Rivas contre Lucas Rosensky en finale. On en parlera plus longuement dans un autre podcast. Mais si cette carte-là a lieu, c'est une très belle carte qui mérite qu'on s'y attarde.
Monsieur le Président, on a beau mettre du rouge à lèvres sur un cochon, là, mais ça reste quand même un cochon.
Faut que je vous raconte une histoire qui fait partie de mon livre d'anecdotes de Rosemontois. Okay? Stuart Hilton, qui était le plus jeune des frères Hilton, fiche amateur exceptionnel de 76-6. Okay? Stuart, il avait gagné les championnats canadiens. C'est le fils de Dave Hilton, c'est le frère de Dave Hilton, Alex Hilton, Matthew Hilton. Il y en a beaucoup qui disent qu'il était aussi talentueux que Dave et Matthew. Okay? Il y avait 76-6 chez les amateurs. Il va passer pro en 85, alors que si je sais compter, là, en 85, il est né en 68, ça fait 12, il a 17 ans. Il va passer pro à 17 ans. En 85, contre Johnny Rodriguez. On va l'amener à Miami, Floride, pour faire ses débuts pro. Ce soir-là, Alex Hilton se fait surprendre par un boxeur tout croche, au surnommé Sam Leonard. Mais Stewart, lui, va ouvrir la carte et va gagner en quelques secondes contre Johnny Rodriguez. Et Stewart, il va reboxer au Québec parce que là, il va avoir le temps d'avoir l'âge entre... J'ai échappé mon micro. Il va venir boxer au Québec sur une carte de Henri Spitzer. Il va gagner encore là. Il va ouvrir le gala. Il va gagner une décision contre un dénommé Jim Giambuleka. Il va battre Hugh Leggett et David Thomas. Stewart avait un talent qui était peut-être un peu différent de ses frères. Ses frères étaient des lourds cogneurs. Lui, il avait passé pro à 18 ans. On peut penser qu'il aurait eu une carrière possiblement à la David Lemieux. C'est quelqu'un, Stewart était très mobile, très agile sur ses jambes, très talentueux. 76-6 chez les amateurs. Et un soir, alors qu'il est âgé de 18 ans, il va... Dans l'histoire qu'on m'a racontée, qui est un peu... Tu sais, la boxe, des fois, c'est du folklore, puis je vieillis aussi, puis les histoires se mélangent dans ma tête. il va prendre la voiture de son père, puis il va vouloir aller, je pense, chercher sa conjointe, où il a eu le temps d'aller la chercher, et ils vont se tuer en fonçant d'un arbre, t'sais. Fait qu'on va jamais... on n'a jamais su jusqu'à où il se serait rendu en boxe professionnelle. Mais, oui, son ami de cœur était dans la voiture. C'est un 4 septembre 86, OK? Et Stewart, c'est ça, quand il va décéder, il a encore 17 ans. Il n'y avait pas de règlement au Québec. Et il ne se rendra pas à l'âge de 18 ans. Et Stewart, on est en train d'essayer de vendre le contrat des trois frères Hilton, Matthew, Dave, Alex et Stewart. Les quatre frères Hilton sont Don King est en train d'essayer d'acheter les contrats. Il y a la mafia qui est là-dedans. Frank Shufi qui essaie de défendre les intérêts. Frank Shufi va dire aux frères Hilton de refuser les premières offres de Don King. On va pas croire à Don King. Et là, alors que Shufi travaille sur le dossier... Tu sais, Shufi, là, il vient de se présenter devant la commission athlétique de Montréal où il plaide la cause, puis il veut pas qu'on accepte... Il accepte pas que les Hilton soient vendus à Don King. On sait que... il veut pas. Puis là, il essaye de convaincre... les commissaires, de vérifier, de relire le contrat, puis d'annuler tout ça, tu sais. Fait que Shufi, lui, est ta commission athlétique, il essaye d'annuler tout ça. Il sort de là pour donner des scoops aux journalistes, dont Michel Auger du Journal de Montréal. Il va dans ses bureaux, il téléphone le président de la régie, il est vraiment sur le dossier, il essaye d'empêcher que les Hilton signent avec Don King puis passent en des mains américaines. Et il va se faire abattre de 5 balles. 4 dans le corps, 1 dans le corps, 4 à la tête. Quelques heures après, les tueurs à gages auraient encaissé 50 000 $. On n'a jamais su ce qui s'est passé. Jamais, jamais, jamais. Mais Stewart Hilton, lui, il va se... Quand il va se tuer en auto, encore là, c'est ça, l'histoire s'en vient, le dénouement, parce que moi, je viens de Rosemont. Ça va se passer 8e avenue et Rosemont. Il y a une église anglicane. Et là, un matin, les gens qui sont habitués au CAM, la rue Rosemont, la bibliothèque qui est en face, le parc Nesbitt, pour ceux qui connaissent le quartier, mais imaginez, là, la PEG de New York qui arrive... la mafia montréalaise, Don King avec son chapeau, tout ce beau monde-là est au coin de la 8e avenue puis Rosemont, l'autobus 197 n'est plus capable de passer. C'est là qu'ils vont avoir lieu les funérailles de Stewart Hilton en 86. J'ai essayé de fouiller pour essayer de trouver des articles de journaux, puis je trouve pas grand-chose. J'aimerais voir des photos de l'église 8e Rosemont avec le chapeau de Don King, la famille Hilton, tout ça au travers... C'était ma petite histoire du boulevard Rosemont et 8e avenue, pour ceux qui connaissent bien le quartier. Sinon, les nouvelles de boxe, à chaque semaine, je vous en parle, on serait de plus en plus près d'un combat entre Terence Crawford et Errol Spence plus tard cette année. Je nous le souhaite vraiment, je le souhaite pour la boxe, je le souhaite pour la suite des choses. La boxe, j'arrête pas de dire que ça va mal, là. Jake Paul contre Asim Rahman Jr., c'est bien parti, là. Ça va bien vendre, mais ce serait le fun des fois qu'il y ait des vrais combats aussi qui vendent. Ryan Garcia contre Gervonta Davis, si ça peut avoir lieu, ça va être archi payant. Errol Spence contre Terence Crawford, ce serait archi payant. Devin Haney puis Teofimo Lopez, on pourrait reculer des camions d'argent. On se le souhaite. Et, les rumeurs présentement nous envoient Devin Haney contre Vasily Lomachenko. Il y a Dimitri Bivol qui s'est fait aviser par la WBA qui devait affronter Gilberto Ramirez. Il a dit « J'ai pas de problème, je vais l'affronter. C'est simplement que je suis en train de négocier avec Joshua Boatti. Oui, niaise pas, puis vole, hein. Boiti puis Gilberto Ramirez, là, c'est deux animaux, ça. Un Anglais puis un Mexicain, deux très bons boxeurs. Content de voir le chemin que Bivol semble vouloir affronter. Tu sais, peut-être que ça aboutira pas à Beterbiev, mais Ramirez et Boiti, des excellents adversaires qui ont même des chances légitimes de gagner. Donc, ben, tant mieux, là, Bivol qui nous donne les combats qu'on veut voir. Il y a une rumeur qui court en Angleterre où, tu sais, Conor Bean, on l'a protégé à 147. On a fait attention à lui. Puis là, du jour au lendemain, Barry Hearn veut organiser Conor Bean contre Chris Eubank Jr. à 156 livres. Puis ça va arriver. Donc, on prend une ancienne vedette, un gars très dangereux encore en Chris Eubank Jr. On prend Conor Bean qu'on surprotégeait à 147. Swing ça d'un catch weight entre les deux à 156, puis on fait un super fight. Parfait pour le public, puis tu sais, pour la boxe, puis pour faire de l'argent pour les promoteurs. Pas trop parfait pour Conor Bean, qui est en train de devenir un incontournable dans la division des 147 livres. J'admets que celle-là est dure à comprendre pour le clan Bean. Pour moi, les dollars devait être sur la table sur un moyen temps. Anthony Joshua, Alexander Usyk, le 20 août prochain, j'admets que je suis très curieux. Est-ce que Usyk va être amoindri par la guerre? Est-ce que Joshua a fait les changements qu'il avait à faire? Shakur Stevenson dit « Je finis de clairer la division et je pars après Tank Davis ». Un autre Shakur Stevenson qui va faire partie d'une relance de la boxe aux États-Unis autant que mondialement. Errol Spence contre Terence Crawford en novembre à Las Vegas, selon Mike Coppinger. Ce serait-tu un beau cadeau de Noël? Golovkin a traité Canelo de petit chien qui aboie. Et je trouve que, pour vrai, l'image est quand même assez drôle. José Pedraza va affronter Richard Comey le 27 août sur ESPN. On ne sait toujours pas qu'est-ce que Tyson Fury va faire avec le titre WBC. Il dit tout et son contraire, mais il n'abandonne pas le titre WBC. Tim Zhu va affronter Jermell Charlo en janvier 23. Scoop caché. Mary Spencer va avoir une adversaire qui va faire du bruit le 9 septembre prochain. Il y aurait un titre qui n'est pas un des quatre réguliers, mais imaginez le titre le plus important à ne pas être des quatre réguliers serait en jeu et finirait par forcer la main à beaucoup de monde chez les 154 livres pour l'affronter le 9 septembre prochain. Mary Spencer, pour moi, il va avoir une annonce très bientôt. On cherche un adversaire pour Makhmoudov et on devrait avoir une annonce pour l'adversaire de Mbili cette semaine. Mbili qui va faire la finale et je crois que Steven Butler va se battre le 16 septembre selon mes papiers qui traînent ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça fait le tour en boxe internationale. C'était mes petits potins de la scène québécoise aussi. Will Madeira va affronter Brandon Lee en sous-carte de Asim Rahman et Jake Paul. C'est à peu près ça. Voilà qui fait le tour. Deontay Wilder devrait affronter Robert Helenius en octobre. C'est la rumeur qui court. Il y a aussi des rumeurs comme quoi Yvon Michel est vraiment sérieux à essayer d'opposer Wilder à Oscar Rivas et il travaillerait très fort sur le dossier. Voilà qui fait le tour. Je vous demanderai de partager le podcast pour faire exploser les codes d'écoute. Vous devriez m'entendre deux fois au 91.9 au mois d'août où j'irai faire la radio avec un vieil ami d'enfance. Et sinon, voilà qui fait le tour de ton podcast préféré. J'espère que j'ai rien oublié et les 7 premières minutes, réécoutez-les et abordez maintenant la vie comme chaque jour est un petit cadeau. Donc, C'était le podcast numéro 138 de ton émission préférée, Laurence Écoute Parler.
Tu vas me faire mourir de rire. Tu vas me faire mourir de rire.